France Culture.
Le journal est signé Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Quelle fiscalité pour les hauts patrimoines? Pas de taxe Zucman en tout cas, qui a été rejetée par les députés cet après-midi. Ces derniers ont voté l'instauration d'une taxe sur les holdings défendue par le gouvernement, mais dont la portée a été largement limitée par la droite. 107, c'est le nombre de femmes tuées en 2024 par leur conjoint ou ex-conjoint, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit 11 de plus qu'en 2023. Une situation dramatique alerte les associations révoltées par la baisse de moitié des crédits dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes dans le projet de budget 2026. Et si les violences patriarcales tuent, elles ne sont pas une fatalité. Une exposition à Paris imagine ainsi un monde où les violences de genre auraient disparu. Des protocoles obsolètes et une sous-estimation chronique des risques. Les premières conclusions de l'enquête administrative lancée après le casse au Louvre sont accablantes. La ministre de la Culture, Rachida Tati, promet des mesures d'urgence. Enfin, nous irons au Mali, où la situation sécuritaire se détériore de jour en jour, sous la pression du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Des députés de droite accusés d'être des poinçonneurs des lilas par la gauche, elle-même sommée par le Bloc central d'arrêter sa créativité fiscale. Foire d'empoigne à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où est examiné depuis ce matin l'article 3 du projet de loi de finances 2026. Assemblée nationale, où vous vous trouvez, Adrien Taufolet, bonsoir.
Bonsoir.
Et les amendements déposés par la gauche prévoyant l'instauration d'un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, aussi appelés taxe Zucman, ont, comme attendu, été rejetés par les députés, Adrien.
Oui, il est sur le banc, Sébastien Lecornu, attentif aux côtés de sa ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a écouté une nouvelle fois les appels de la gauche à répondre aux besoins de justice fiscale. Eva Sas, députée des écologistes de Paris.
La justice fiscale n'est pas un luxe, c'est la condition de notre cohésion démocratique. Alors avant de geler les retraites, de doubler les franchises médicales, commençons par taxer les riches pour qu'ils payent non pas plus, mais simplement autant que tous les Français. Nous verrons dans cet hémicycle qui est pour ou contre la justice fiscale dans ce pays.
Une taxe Zucman, 15 à 20 milliards d'euros de rendement attendu, ou sa version allégée au rendement divisé par deux, portée par la députée socialiste de Meurthe-et-Moselle, Estelle Mercier.
Chers collègues, vous n'aimez pas la taxe Zucman, vous n'aimez pas la flat
tax. Estelle Mercier qui, à cette alternative, les députés du camp présidentiel n'ont pas rendu la main tendue, a-t-elle déploré, pas même proposé de l'amender cet après-midi, tout simplement parce que c'est non négociable, a rappelé le député Ensemble pour la République de l'Essonne, Paul Midi.
Chers collègues, vous n'aimez pas la taxe Zucman, vous n'aimez pas la flat tax, vous n'aimez pas la taxe sur les...
Le taux est plus fort, la base est plus forte, ça n'est pas 100 millions, c'est 10 millions, et les exceptions sur les biens professionnels sont anecdotiques. Cette taxe, c'est 100% sucre ajouté, c'est 0% croissance, merci. Ça sera donc 100% non.
Et donc, sans surprise, aucune n'est votée. 231 voix contre la taxe Zucman, 168 pour, 228 contre sa version light, 171 pour, et pas un mot du Premier ministre. Les socialistes le savaient et ils attendent à présent une proposition de compromis de la part de Sébastien Lecornu. Si le Premier ministre a fait le déplacement, c'est pour annoncer quelque chose, sont persuadés plusieurs cadres du PS. L'entourage de Sébastien Lecornu vient de le confirmer il y a quelques minutes. Il prendra la parole, mais les socialistes sont clairs. Il faudra des mesures qui rapportent 13 à 15 milliards d'euros de recettes fiscales, sinon la France n'aura pas de budget.
Adrien Taufolet en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Maëlle Larfassor, de la Norvège au Brésil en passant par la Suisse. Comment la fortune est taxée à travers le monde? Eh bien, c'est l'objet d'une série du journal de l'Écho diffusée cette semaine sur France Culture et à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Et il n'y a pas que les députés qui s'insurgent contre ce projet de budget 2026. Les associations féministes dénoncent aujourd'hui la baisse de près de moitié des crédits alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces crédits à des services de l'État, dédiés à la politique d'égalité et de lutte contre les violences, sont en baisse de 47% dans le projet de loi de finances 2026, pointe la Fondation des Femmes. Azaïs Perronin, bonsoir.
Bonsoir.
La Fondation des Femmes qui alerte donc sur cette démobilisation budgétaire qui va avoir des conséquences concrètes.
Oui, selon la Fondation des Femmes, cette baisse des crédits va frapper à deux niveaux. L'accès aux droits d'une part et le pilotage national de la lutte contre les violences faites aux femmes d'autre part, avec des effets très concrets, alerte Laura Slimani, directrice des projets de la Fondation.
Ça veut dire très concrètement que ce sont des campagnes, notamment des campagnes de prévention qui sont financées d'habitude sur cette ligne budgétaire, qui sont aujourd'hui menacées. C'est moins de prévention, moins de messages qui permettent aux femmes de parfois se rendre compte des violences qu'elles subissent et surtout de connaître les numéros, par exemple, qu'elles peuvent appeler, les associations qu'elles peuvent aller rencontrer pour se sortir de cette situation.
Ces associations qui accompagnent les femmes victimes de violences ont déjà subi des coupes. En septembre dernier, la Fondation publiait une enquête révélant une baisse de 15% en moyenne des subventions. Résultat des permanences qui ferment, des lignes d'écoute saturées, un accompagnement réduit. Et la situation est particulièrement critique en milieu rural où 72% des associations ont dû fermer des permanences ou des centres d'accueil. Pourtant, rappelle la Fondation, la moitié des féminicides ont lieu en zone rurale où ne vit qu'un tiers de la population française. Et la Fondation des femmes n'est pas la seule à tirer la sonnette d'alarme. Plusieurs rapports officiels de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale dénoncent une cause mal dotée. Quand le Sénat, dans un rapport en juillet dernier, déplorait, je cite, des montants dédiés dérisoires.
Azaïs Perronin, et si les moyens alloués pour protéger les femmes victimes de violences sont à la baisse, dans le même temps, eh bien, le nombre de féminicides, lui, augmente. C'est ce que révèlent aujourd'hui les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024. C'est 11 de plus par rapport à l'année précédente. Le nombre d'hommes tués au sein du couple augmente aussi, plus 35%. Cela fait au total un décès tous les 3 jours, avec des victimes de plus en plus âgées. Margot Steve.
Oui, les femmes de plus de 70 ans sont surreprésentées. Elles constituent un quart des féminicides l'an dernier. Et cette proportion ne fait qu'augmenter au fil des années. Même constat pour les auteurs de féminicides. 30% ont plus de 70 ans. La plupart dépassent même les 80 ans. Des crimes qui s'inscrivent souvent dans le contexte de la fin de vie. 78% des féminicides au sein des couples âgés sont liés à la maladie de la victime ou de l'auteur. Pour les autres, ce sont les disputes et les séparations non acceptées qui restent les mobiles les plus courants dans le passage à l'acte, avec souvent des violences antérieures. 47% des femmes tuées avaient déjà signalé des violences avant de mourir, souvent en déposant plainte. Parmi les auteurs, un tiers était déjà connu des forces de l'ordre. 4 avaient même interdiction d'approcher celles qu'ils ont tuées.
Margot Steve, une situation dramatique, donc d'après les associations qui exhortent l'exécutif de passer de la parole aux actes pour faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une véritable priorité nationale. Une priorité pour changer les chiffres autant que les mentalités et enterrer une bonne fois pour toutes le dénominateur commun de ces violences, à savoir le patriarcat. Dans ce contexte, peut-on imaginer vivre un jour dans un monde où les violences patriarcales et le sexisme auraient disparu? C'est en tout cas l'utopie au cœur d'une exposition à la Rotonde à Paris, baptisée le Musée du Patriarcat et conçue par l'association En Avant Toutes. Jeanne Serrin l'a visitée pour France Culture.
À la billetterie, pas d'audio guide. À la place, Gwen Pelletier, la responsable événement d'En Avant Toutes, nous propose 2 poids.
Et on va proposer la visite du musée avec ou sans charge mentale, et notamment aux hommes.
Pour nous, ça sera 100 poids. Nous montons au 2e étage et en poussant la porte, on fait un bond dans le temps. Nous sommes en 2135, accueillis par Inaé Bonabin, la cofondatrice d'En Avant Toutes. Elle nous attend devant un premier vestige du passé.
Ici, on a le vase des larmes de Ouin-Ouin, qui regroupe toutes les larmes des hommes qui estiment qu'on ne peut plus rien dire et qui était en 2025, à cette lointaine époque, très présent dans les médias, mais aussi dans les repas de famille et même autour des apéros et des verres entre amis.
Autour de nous, des pages de catalogue pour jouets, rose et bleu, une lunette de toilette relevée, des extraits d'émissions de télévision.
Chiffre. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer.
Une somme de petites provocations satiriques, mais qui n'en reste pas moins politique.
Il y a de quoi être en colère avec de nombreuses œuvres qu'on voit, et en même temps, on a décidé que cette colère, on la transformerait là, collectivement aussi, dans un lieu public où on peut être plein, où on peut venir avec ses amis, où on peut venir avec celles et ceux avec qui on a un peu du mal à en parler, pour qu'il y ait un support et que ce soit plus facile justement d'aborder ces questions. Et bien, ensemble, on va en rire.
Se projeter dans un monde utopique pour se donner de l'espoir, c'est aussi l'objectif de ce lieu.
Faire un endroit qui soit festif, qui soit joyeux, c'est aussi reprendre des forces et se permettre de ne pas faiblir, on va dire.
Ne pas faiblir à la veille d'un mois de novembre important pour les associations féministes, avec comme point d'orgue la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre prochain.
Jeanne Serrin, l'exposition à la Rotonde à Paris ouvre ses portes au public dès demain jusqu'au 10 novembre. Et les bénéfices de la billetterie seront reversés à En Avant Toutes pour financer les actions de l'association. Nicolas Sarkozy sera fixé le 10 novembre prochain. La Cour d'appel de Paris examinera dans 10 jours la demande de mise en liberté de l'ancien président, incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris, après sa condamnation avec mandat de dépôt à exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Près de deux semaines après le spectaculaire cambriolage du Louvre, l'enquête administrative révèle une sous-estimation chronique des risques d'intrusion dans le musée. C'est la ministre de la Culture qui l'a dévoilé aujourd'hui. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir à tous.
Rachida Dati a annoncé donc plusieurs mesures d'urgence pour renforcer la sécurité de l'établissement.
Oui, notamment des dispositifs anti-intrusion et anti-voiture bélier. Le jour du casse, un camion élévateur avait pu stationner au pied du musée et permis aux voleurs de rentrer par la fenêtre. L'idée, c'est donc de placer des blocs de béton tout autour du musée pour que les voitures ne puissent pas se garer aussi près. La ministre assure que ces dispositifs seront en place d'ici la fin de l'année, donc dans moins de 8 semaines. La présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, a pourtant expliqué il y a quelques jours que le projet était déjà dans les tuyaux, les blocs en cours de pose. Elle les avait réclamés fin 2023. Concernant la vidéosurveillance très critiquée dans les premiers jours, il y a 5 caméras à l'extérieur, ça fait à peu près une tous les 250 mètres. Mais le Louvre n'a pas la compétence pour en installer d'autres sur la voie publique, ça relève de la mairie de Paris. À l'intérieur, en revanche, la présidente a reconnu que le système n'était pas à la hauteur, notamment parce que les 1300 caméras ne sont pas toutes numériques. Enfin, pour ce qui est du dispositif humain, Rachida Dati rejette complètement la faute sur la présidente du musée et lui ordonne de réunir en urgence un conseil d'administration pour, je cite, « revoir la gouvernance de l'établissement ». Elle veut plus d'agents, plus de formation, plus de sécurité. Et quand on lui demande si elle renouvelle sa confiance à Laurence Descartes, dont elle a refusé la démission, la ministre préfère ne pas répondre.
Mathilde Cariou. Loin du Louvre, 20 ans après l'embrasement de Clichy-sous-Bois, ni l'image ni la considération envers la banlieue n'ont vraiment évolué, déplore Farid Zerzouz. En 2007, 2 ans après la mort de Ziad Ebouna, ce jeune comédien avait alors décidé de lancer son théâtre au cœur du quartier prioritaire dont il est originaire, celui des Fossés-Jean à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et ce théâtre du Calame organise depuis 20 ans de nombreuses activités culturelles auxquelles de nombreux jeunes habitants du quartier ont participé, comme Omar Sissoko, 19 ans. Il répond à Fiona Mogadam.
Ça m'a appris à me concentrer, parce que ouais, faut bien apprendre ses textes, rester dans son rôle pendant 1 ou 2 heures, ce qui est plutôt dur quand t'es au collège et que t'es un peu, ouais, tu bouges quoi. Sinon, ça m'a apporté du calme, de la joie, c'était bien, ça m'a beaucoup aidé.
Toi qui habites dans ce quartier depuis de nombreuses années, est-ce que tu penses qu'une structure comme ici, le Théâtre du Calame, ça permet aux jeunes, aux habitants du quartier de pouvoir s'exprimer, de pouvoir passer des messages sur des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et peut-être d'une autre manière que si cette structure n'existait pas?
Bah oui, parce que déjà, on sait que dans certains côtés reculés, pardon, 77 et 78, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités. Et ça aide beaucoup pour les jeunes, pour les activités, pour nos petits frères, nos petites sœurs. C'est quand même une chance, hein, parce que tout, on n'a pas accès, donc faut toujours en profiter, quoi. On entend rarement parler de la banlieue. On parle souvent des mauvaises choses, de la drogue, tout ça, mais on parle pas quand il y a des activités pour les jeunes et que les enfants ils s'amusent. Il n'y a pas que de la drogue dans les quartiers.
Naissance d'un théâtre au cœur d'une cité, c'est le titre du dernier épisode de notre série Clichy-sous-Bois, 20 ans après les colères en mutation. Dernier épisode signé Fiona Mogadam. À retrouver en direct demain à 7h15 sur France Culture et sur franceculture.fr. Combien de temps le Mali va-t-il encore résister à la pression djihadiste? L'ambassade des États-Unis au Mali exhorte depuis 48 heures ses ressortissants à quitter immédiatement le pays par des vols commerciaux. La décision américaine a été suivie par d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Canada ou encore l'Espagne, qui ont également invité leurs ressortissants à quitter le pays. Mais après les exhortations, l'heure est désormais aux évacuations. Nathaniel Charbonnier, les États-Unis, le Royaume-Uni annoncent ainsi l'évacuation de leur personnel non essentiel et de leurs familles présentes au Mali.
Officiellement, c'est en raison de risques sécuritaires que les pays, les uns après les autres, demandent à leur personnel de quitter le Mali. Mais pour expliquer l'accélération de ces décisions en série, il faut juste avoir conscience que les chancelleries anticipent le fait que Bamako pourrait tomber aux mains des djihadistes. Cela fait des semaines que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, s'attaque aux livraisons qui arrivent par le sud et le sud-ouest, c'est-à-dire par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cela fait des semaines que la capitale souffre de pénuries en tout genre, à commencer par le manque de carburant ou d'électricité. La question est de savoir maintenant combien de temps l'armée au pouvoir depuis 2020 va pouvoir tenir. Dans un communiqué adressé hier aux ambassades encore ouvertes à Bamako, les militaires semblaient se vouloir rassurants, mais dans la réalité, le doute plane. C'est comme si on se retrouvait en janvier 2013, au moment où François Hollande avait lancé l'opération Serval pour stopper les djihadistes qui menaçaient déjà Bamako. Seulement, nous sommes aujourd'hui 12 ans plus tard, et les Maliens et sa junte, au pouvoir, n'ont plus beaucoup d'alliés capables de venir les sauver.
Nathanaël Charbonnier, et si ce groupe djihadiste attaque les convois pétroliers, il commet également des enlèvements dans la région de Kayes, proche de la frontière avec la Mauritanie. 3 ans après la fin de l'opération Barkhane, chargée de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel, comment expliquer l'ascension du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans? Quelles sont ses sources de financement? Explication d'Antoine Boucher.
Le JNIM est né en 2017 au centre du Mali en regroupant plusieurs groupes djihadistes préexistants au Sahel, dont la branche saharienne d'Al-Qaïda. Le nom de cette coalition signifie en arabe « groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ». Aujourd'hui, le groupe du JNIM le plus actif dans la région de Kayes, à l'ouest du pays, s'appelle la Katiba Massina. Il est dirigé par Amadou Koufa, un membre de la communauté Peul, l'une des 14 grandes ethnies locales. Bakary Sambé préside le Timbuktu Institute, un centre de recherche pour la paix basé à Dakar.
C'est né à partir de revendications identitaires. D'abord, les Peuls qui souffraient de vols de bétail de la part des Touaregs, qui sont allés chercher protection au niveau d'Al-Qaïda, et finalement qui ont appris le maniement des armes et qui ont pris leur autonomie.
À ces revendications identitaires, il faut ajouter la volonté d'imposer une idéologie religieuse salafiste beaucoup plus rigoriste que la mouvance soufie traditionnelle au Mali. Les femmes qui ne portent pas le voile en territoire JNIM sont fouettées. Et les étrangers sont aussi ciblés par le groupe.
C'est pourquoi ils ont enlevé récemment un cheikh soufi qui donnait des discours anti-djihadistes et qui appelait un islam de paix. C'est pour ça aussi qu'ils s'attaquent aux acteurs économiques internationaux qui restent, qui se considèrent comme des gens qui veulent soutenir l'économie locale et l'économie nationale. Donc c'est pourquoi ils sont attaqués à des Chinois, à des Émiratis, etc.
Le JNIM se finance avant tout par le vol de bétail, le trafic de bois, l'orpaillage clandestin et les rançons versées pour la libération des otages kidnappés. Il faut dorénavant y ajouter la revente illicite aux populations locales du carburant pillé massivement ces dernières semaines. Ces attaques de camions-citernes ont été décidées par Abou Ouzeifa Al-Bambari, un cadre mis en avant par le JNIM, car n'appartenant pas à la communauté Peul. Entre 2021 et 2024, les attaques du JNIM dans le sud-ouest du Mali ont été multipliées par 7.
Au moins 700 morts en 48 heures, bilan donné par l'opposition en Tanzanie, où la population qui manifeste depuis mercredi contre le pouvoir est prise pour cible par les forces de sécurité. Le pays de 68 millions d'habitants sombre dans la violence après des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans parti d'opposition. Les deux principaux adversaires à la chef de l'État ayant été emprisonnés et disqualifiés. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères récuse ce soir tout usage excessif de la force. En ce 31 octobre, soirée d'Halloween, irez-vous au cinéma pour vous faire peur devant un film d'horreur? Aux États-Unis, en tout cas, le genre se porte mieux que jamais dans l'histoire d'Hollywood. Il représente désormais près d'un ticket sur 5 vendus dans les cinémas. C'est plus que les comédies et les drames combinés, alors que l'épouvante ne représentait que 10% du secteur avant la crise Covid. Alors malgré la concurrence des plateformes, le public est toujours au rendez-vous pour frissonner dans les salles obscures, comme l'a constaté Timur Özturk à Atlanta.
Mati sort tout sourire de sa séance.
It was good.
Le sous-sol de la peur de 1991 reprogrammé pour Halloween.
C'était vraiment marrant, avec beaucoup de rire et aussi beaucoup de scènes dérangeantes, très sombres. C'était génial.
L'horreur attire du public tout au long de l'année, comme dans le cinéma où Joe vend des places à l'accueil.
On n'en a qu'un film d'horreur en ce moment, Black Phone 2. Il marche très bien, il plaît beaucoup aux lycéens, ils essayent de le voir même s'ils n'ont pas l'âge.
Alors que la fréquentation baisse, le genre reste associé à une certaine expérience en salle.
Se retrouver avec plein d'autres gens effrayés, en train de crier, c'est un phénomène de groupe à vivre.
Aaron, cinéphile, habitué des salles obscures, y voit aussi un symptôme de ce que traversent les États-Unis sous Donald Trump.
Je pense que l'art reflète la société. C'est terrible à dire, mais nous vivons une époque terrifiante. Et donc, les films d'horreur sont populaires.
Malgré leur succès, les films d'horreur ne suffisent pas à remplir les cinémas américains qui ont perdu 40% de fréquentation depuis le Covid.
Reportage de Timur Özturk à Atlanta aux États-Unis. La météo de demain matin avec un temps pluvieux attendu de la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France et jusqu'aux Ardennes. À l'avant de la perturbation, les entrées maritimes présentes sur le golfe du Lion apporteront des pluies régulières sur les Cévennes et quelques ondées sur la région PACA. Les températures minimales restent douces avec 9 à 13 degrés sur le nord de l'Hexagone, 11 à 15 degrés dans le sud et jusqu'à 17 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia, Grégory Wallon à la technique.